veut gagner plus d'argent ici.
Jouer à l'euro million, c'est le point numéro 1. Est-ce qu'on peut passer au point numéro 2, s'il vous plaît?
Ça va, les gars?
Ça va, et toi?
Oui, bonjour, Manuel.
Bonjour.
Vous allez bien?
Attends, j'ai un son bizarre, là. Ah, c'est bon.
Non, c'est parfait, là.
Non, c'est bon? On m'entend bien?
Ouais, on t'entend très, très bien.
Je peux être payé pour ça?
Pour cette partie-là du podcast?
Ouais.
Juste pour celle-là,
j'ai
quoi.
J'ai rendez-vous, je dois y aller.
Ça peut être l'un des premiers points. Écoutez, je suis tombé sur un thread de Cody Sanchez.
J'espère que tu t'es pas fait mal.
Pas mal. Et c'était super intéressant, parce que c'est des phrases courtes, mais qui peuvent vraiment nous donner, je pense, une bonne ligne directrice pour comprendre où mettre de son énergie, si on veut juste gagner plus d'argent, si c'est son seul objectif, en tout cas de vie, je ne vous le souhaite pas.
Il vaut mieux que ça fasse partie des objectifs quand même, ça peut être utile.
C'est l'un des outils, l'argent, mais c'est pas ce que j'aurais dit il y a 6 ans.
Non, ça c'est
mais
vrai.
Mais c'est pas le but, voilà.
C'est bien.
Bah, oui, bon bref.
Premier point.
Aujourd'hui, dans la rue, il y avait des tonnes de gens qui n'étaient pas du tout intéressés par cet objectif.
Ne jamais faire de rabais. Faites concurrence sur la valeur, pas sur le prix. C'est l'un des premiers conseils que m'avait donné Manuel au tout début quand je faisais des opérations YouTube.
Ça, c'est bien.
Et
ça.
Que je disais, ah là là, si t'as 1000 euros, bon, bah d'accord, à la place de 1500, je te fais 2000 euros. Et Manuel était venu me voir un jour et m'avait dit.
Inverse.
Oui, parce que là, pardon. C'est
à la place de 2000.
Ah oui, pardon, excuse-moi.
T'arrives d'amis, je te fais 10K.
À la place de 1500 euros, ok, pour 1000 euros, etc. Emmanuel était venu me voir en me disant, mais non, mais pourquoi tu ne crées pas juste plus de valeur? Ne dévalorise pas ce que tu es en train de vendre. Dis simplement que là, pour l'aider, bah, tu vas faire un contenu peut-être en plus. Et c'est complètement différent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, évidemment, ou pas avec ça, mais je pense...
Et à 18 points, on va accélérer parce que sinon, on ne va jamais en sortir. C'est la différence entre la valeur et le coût. Donc, tu peux toucher à la valeur, donner plus de valeur, mais tu dois faire exister le coût auprès de ton interlocuteur. Donc, si... ton coût, c'est ça, bah, ne change pas le coût et donne-lui un petit peu plus de valeur qui, elle, a un coût marginal très faible.
Tu vois, ça va aller vite puisque c'est le deuxième point. Ah. Votre prix n'est pas trop élevé, votre valeur perçue est trop faible.
Moi, j'allais réagir.
Bah, tu peux parce que le deuxième point fait partie.
Parce que je tiens à être payé pour cet épisode, donc j'aimerais participer un
minimum. Il a compris que c'est...
J'applique les conseils qu'on va donner. Hein. Si la personne est fait de la résistance et dit « bah non, vraiment, ça rentre pas dans mon budget, comment tu fais ?» Tu peux pas baisser la valeur éternellement. Donc tu lui dis que vous pouvez pas travailler ensemble.
Ouais, c'est peut-être pas le bon moment. Ouais. C'est trop tôt.
Ok.
En fait, tout dépend aussi de la façon dont tu fais les no-go. Mmh. Tu dis, bah, désolé, ça va pas être possible pour cette fois-ci, mais il y aura peut-être une autre fois où vous aurez un meilleur budget pour la qualité de ces prods-là, etc. Si tu le fais de façon arrogante en disant, ah ben désolé, vous avez pas les moyens, hein, tant pis pour vous. Bah là, c'est sûr que le mec il va pas revenir demain.
Mais ce qui est bien, c'est que ça améliore ton image par contre. C'est-à-dire que la personne se dit, bon là, vraiment, elle voulait pas me fournir un travail de merde, et le truc est pas trop cher, c'est vraiment sa valeur minimale, quoi.
C'est ça.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Troisième point, antidouleur contre vitamine, on gagne plus d'argent en vendant un besoin qu'un désir.
C'est vrai.
Bah oui, c'est ce qu'on dit souvent, il faut d'abord qu'il y ait un problème et ensuite les gens ont envie d'acheter la solution, mais s'il n'y a pas de problème, c'est plus difficile.
Mais on peut, avec un bon storytelling, on a déjà parlé de storytelling, transformer le désir en besoin.
C'est tout l'enjeu du storytelling.
Ouais, c'est de faire croire que c'est un vrai besoin et pas juste un désir.
Bah oui, Apple le fait très très bien.
Le quatrième.
Et on est tous
des victimes.
Non, pas des victimes parce que si. Ça se fait avec
surtout
notre
toi.
Consentement.
Oui.
Celui-ci, je l'adore. Le marché n'est pas saturé. Votre entreprise est juste nulle. Je l'adore, celui-là.
Ah ouais, c'est pas mal.
Non, mais tu sais, c'est la première excuse. Non, mais la boîte a pas marché parce que le marché est trop saturé. Bah non, t'étais juste moins bon que les autres, en fait.
Oui, ça peut être saturé, mais tu fais pas partie du top 3, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est juste que ta value proposition n'est pas différente du reste du marché. Mm. Quand tu dis le marché est saturé, ça veut dire que ta proposition de valeur ne se distingue pas des autres acteurs. Donc on fait plouf-plouf, on peut prendre n'importe qui, c'est pareil. Si ta proposition de valeur est différente, alors on va te préférer.
Et c'est pour ça que, par exemple, dans notre...
Je sais que tu comprends pas ce concept.
Si, je comprends.
Qu'on te préfère?
Ouais.
Ah bon?
T'inquiète, on me préfère souvent.
J'ai l'impression que le
pardon,
marché
je parle comme Léo Def, excusez-moi, il faut que je me recalme là.
Non, mais sans payer, je veux dire.
Ah bah, d'accord. Le premier conseil que je donne, c'est aujourd'hui, on utilise beaucoup d'outils tech pour créer déjà des emails, peut-être avec des templates, des choses comme ça, etc. Et la vraie plus-value, tu le fais déjà sur le relationnel humain en passant plus de temps avec tes clients par téléphone.
Ouais.
Beaucoup d'industries aujourd'hui se disent « Bon, bah tiens, il y a un besoin ici, on va lui envoyer ça, on verra bien ce qu'il prend. » Bah en fait, si tu fais ça, tu te mets au même niveau que tous les autres. C'est juste que tu auras peut-être un phrasé différent, un contenu différent. Mais à la fin de la fin, ton client, il sera rassuré par le fait de se dire « Putain, attends, lui, quand je l'ai au téléphone, il comprend vraiment ce que je veux. Il me vend la même chose que les autres, mais ça me rassure parce que je l'ai au téléphone. Et... »
Moi, je suis moins manichéen sur ces questions-là. Tu chercheras M dans le dictionnaire.
Ah, c'est le mec de la Nouvelle Star ?
Oui. Il faut utiliser des outils d'automatisation pour des trucs qui peuvent être automatisés, mais il faut mettre du coup ton énergie que tu as gagnée, tu dois la passer en étant ultra humain là où il faut l'être. Donc tu peux par exemple adresser tout un tas de prospects avec un peu d'IA, de l'automation marketing, etc. Et on sera sûrement amené à reparler de ce sujet. Mais du coup, ta première interaction pour ton premier call, bah là, il faut qu'il y ait un putain d'humain avec de l'empathie, de la compréhension, de la volonté de comprendre le problème, de le résoudre et d'apporter des solutions.
Complètement.
Aujourd'hui, beaucoup de boîtes essayent de tout automatiser. Ça, c'est un problème. Parce qu'à un moment, surtout dans le service, tu as quand même besoin de parler à un être humain. Regarde, ce matin avec Léo, on a appelé des prestataires pour un projet qu'on a chez Influx.
C'est vrai.
Je peux te dire que les interlocuteurs auxquels on a parlé... Bah, on a vu les différences.
Le premier, je pense, on aurait pu demander à ChatGPT.
Oui, il nous aurait mieux répondu.
Il aurait eu plus d'empathie, à mon avis.
Ouais.
Ah, c'est ouf. Bah, on voit dans des services comme Uber, l'app, elle marche trop bien, tout est OK. Par contre, à la fin de la fin, si t'as un chauffeur qui s'en bat complètement les couilles, qui est nul, bah, en fait, pour toi, l'app est nulle.
Ah, moi, la dernière fois, j'ai un chauffeur Uber qui roulait en sens inverse.
Ah, pas mal. Sur la piste cyclable ou pas ?
Non, sur.
Ah, dommage.
J'ai pas le code, mais moi-même, j'ai vu qu'il y avait un problème.
T'as pas le permis tout court, hein.
Bah oui, mais le code est encore moins du coup.
Oui.
Prochain
point. Première étape quand même avant d'avoir le permis.
Si personne ne pense que tu es fou, c'est que tu es en retard.
Très très bien. J'aime beaucoup ça. Parce que si tu es déjà compris, validé, admis par la majorité, ça veut dire que ton seuil d'innovation est assez faible.
Oui, il y a déjà d'autres gens qui l'ont fait très bien avant toi, qui ont éduqué le marché, quoi.
Donc en fait, si tu veux être pionnier d'un marché, je ne dis pas que c'est un objectif systématique pour toutes les boîtes, mais si tu veux être pionnier d'un marché, il faut accepter de ne pas être compris. Il faut même accepter d'entendre des horreurs sur toi. Ouais. C'est-à-dire, ils font n'importe quoi, leur modèle ne marche pas, on ne comprend rien, on ne comprend pas, attends, ils sont où, c'est quoi exactement leur métier, etc. Très très bien. Moi, quand j'entends ça, en général, ça me plaît beaucoup. Alors, des fois, malheureusement, le truc est incompréhensible. Ça arrive en vrai de vrai.
Oui, mais, par contre, ça, c'est pas parce qu'on te dit que tu es fou que tu es en avance.
Ah non.
Tu es peut-être vraiment fou.
C'est ça.
Prochain point. Un peu fou.
Tu veux ?
Et je suis un peu
Léo, me regarde quoi, là.
Non, moi, ça me faisait penser à l'iPhone et notamment le mec de chez Microsoft.
Steve Ballmer,
qui disait... Oh ben, c'est une très mauvaise machine à mail, hein. Il n'y a même pas un clavier physique.
Et tu sais que c'est la vidéo que je regarde quand j'ai un petit coup de mou, que je me dis, bon allez, sincèrement, c'est dur aujourd'hui, etc. Je vais voir la vidéo de Ballmer, je dis, ah.
Et tu te souviens des employés de Microsoft qui avaient fait une cérémonie avec un cercueil avec l'iPhone dedans ?
Ben, bien sûr.
Pour le Windows Phone.
Putain.
Les mêmes mecs qui écoutaient de la musique sur des Yune, un produit qui n'a jamais été vendu à qui que ce soit, en fait. Sauf si t'es employé de Microsoft, personne n'a jamais eu de Yune.
Bah tu vois, eux, ils paraissaient fous, et ils l'étaient.
Les gens se fichent de ce que vous faites si vous ne répondez pas à leur vraie question, qu'est-ce que j'y gagne ?
Bah évidemment, what's in it for me ? Ouais. C'est toujours ça la question à la fin. C'est qu'est-ce que tu résous, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je résous comme problème, comment tu m'aides à aller plus vite, à faire mieux comprendre mon message, à rendre mon produit plus clair, plus lisible, plus envisageable. Voilà. Si ton pitch n'adresse pas ce point, tu perds ton temps.
C'est pour ça que je payais combien pour l'épisode là ?
Parfois, en tant que client, quand on me parle justement de tous ces points-là qu'on peut résoudre pour moi, j'aime bien essayer de pousser l'interlocuteur dans ses retranchements en disant « Ok, quoi d'autre ?» et voir jusqu'où il va et jusqu'où la proposition peut aller. Je trouve que à la fin de la fin, c'est intéressant parce que parfois tu as des boîtes où en grattant, tu t'aperçois que tu peux presque créer de la valeur qui n'existe pas encore chez eux parce qu'ils n'y ont pas pensé. Et tu leur dis, mais ça, vous pouvez pas le faire. Ah bah si, on pourrait. Bon bah ok, bah faites-moi une proposition avec ça. Mmh. Ah, ok, on l'a encore jamais fait, mais et ça c'est cool parce que tu vois que les gens soit ont envie de se dépasser pour faire plus que d'habitude et tu comprends du coup voilà, ce qu'ils peuvent vraiment t'apporter quoi.
Bah moi en tout cas, c'est la question que je me pose tout le temps quand j'écris une vidéo, c'est de savoir ce que la personne va en retirer.
Ah ouais, mais ça c'est fou à chaque fois Léo.
Mais c'est le truc le plus important en fait, c'est la seule raison pour laquelle tu dois faire une vidéo.
Tu dois faire une vidéo.
Non, n'importe qui.
Ah mais c'est vrai que Romain il se pose pas cette question.
Non mais n'importe qui, ça
moi, je vous dis, ça me fait plaisir de raconter ça, hein, je raconte ça.
Ça marche dans tous les domaines. Je sais pas, Squeezie, quand il fait une vidéo, il se dit, bah, faut que les gens se marrent. Ils en tirent, faut que ton audience en tire forcément quelque chose, quoi que tu fasses.
Il a raison. Point suivant.
Donner la priorité aux critiques et aux témoignages. Un client heureux, c'est le marketing le plus puissant.
Tout à fait. Lisez Seth Godin. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a à dire là-dessus. Et en particulier, un bouquin qui s'appelle Permission Marketing, qui est pas son bouquin le plus populaire et qui est pourtant son bouquin le plus puissant.
Ah ouais?
Oui. Tout le monde parle de Purple Co. Très bien. Bon, c'est un très bon livre, machin, tout ça. C'est rigolo et tout ça. Mais son bouquin le plus puissant, c'est Permission Marketing. Depuis, on a écrit d'autres trucs bien, hein, mais ça, quand même, c'est puissant.
Moi, je conseille Seth Godin. Mais c'est un pseudo sur une autre. C'est pas sur Amazon.
Non.
Autre point plus facile à dire qu'à faire, mais ça permet évidemment de gagner plus d'argent. Ne prendre aucun risque, c'est laisser l'inflation grignoter votre argent jusqu'à ce qu'il disparaisse.
C'est l'inflation, en gros, tu as 100 euros au début sur ton compte en banque, ouais. Il y a 5% d'inflation, donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, tes 100 euros ne valent plus que 95 euros en pouvoir d'achat. Donc du coup, ça vaut le coup de prendre un risque pour faire en sorte que tu aies fabriqué au moins 105 ou plus euros à la fin de l'année pour avoir préservé ton pouvoir d'achat. Donc en réalité, tu n'as pas pris un risque, tu as préservé ton pouvoir d'achat.
Et si tu les perds,
si tu les perds,
vraiment tout perdu.
Bah t'as pas vraiment tout perdu parce que tu n'es pas con au point d'exposer l'intégralité de tes 100 euros.
Si.
Ah. Bon bah là c'est un médicament contre la connerie. Je crois que tout le monde le cherche. Et visiblement, si je me réfère à la journée d'aujourd'hui encore, on l'a pas trouvé.
Et il y a une vraie éducation pour moi encore à faire sur. Qu'est-ce que l'argent, l'éducation financière, où trouver ces solutions-là? Il y a plein de gens qui me disent « Ah, j'ai de l'argent de côté, je ne sais pas quoi en faire. » Ben, cherche les secteurs dans lesquels tu as envie d'investir, les secteurs que tu comprends, etc.
Moi, j'adore dire aux gens, tous ceux qui disent j'ai de l'argent de côté, je leur dis souvent « Donc, tu as de l'argent qui perd de sa valeur.
» C'est vrai. C'est pour ça que moi, je dépense tout.
Mais à la rigueur, c'est mieux. C'est mieux. Parce qu'il vaut mieux que tu dépenses ton fric pour la valeur qu'il a aujourd'hui plutôt que d'attendre dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 8 mois que l'inflation te le grignote et que tu aies accès à moins en fait. Donc, bon, dépenser c'est bien, mais il faut surtout choisir tes investissements pour préserver la valeur de cet argent. Mais de l'argent bloqué sur un compte, en fait, c'est de l'argent qui perd de sa valeur. Allez, Romain.
Allez.
On est au 19e point.
On est au 9e point.
Oh putain.
Vous voulez connaître des gens intéressants? Soyez vous-même plus intéressant.
Ça, c'est sûr.
Tu peux pas plus. Question suivante.
On en vient encore sur l'éducation, sur lire, sur arrêter d'être bloqué en vous disant bah, « ça y est, j'ai fini mes études, maintenant je vais faire qu'appliquer ce qu'on m'a appris ».
Ouais, déjà lire, ça permet d'être vraiment la personne la plus intéressante dans la pièce. Ça, c'est imparable.
Étant donné que la majorité ne lise pas.
Ouais.
Mais à ce point-là, parce que maintenant que je lis, je vous assure…
Regarde cette pièce.
Bah oui, c'est vrai, il n'y a personne qui est pas intelligent. Prochain point, les bonnes relations, du coup, sont un meilleur levier que l'argent. Alors ça, pareil, j'ai mis du temps pour le comprendre. Parce que je viens d'une petite île où...
On paye les gens pour avoir des interactions.
C'est un peu ça.
Sur des yachts.
C'est tout ce qui fera la force de ce que vous allez entreprendre, c'est votre réseau, c'est vos contacts. C'est pas l'argent que vous avez. Et le meilleur exemple, c'est de dire, bah, demain, tu veux parler à Bill Gates, c'est pas en étant milliardaire. Tu vas parler à Bill Gates parce que bah, tu auras un truc incroyable dont il aura envie de parler avec toi, quoi. Voilà.
Je suis pas sûr de souscrire à la théorie, mais en gros, les gens ils te payent de deux façons. Les gens qui lancent des projets et qui disent bon ben voilà, j'ai lancé un projet, aidez-moi, ou même sans parler d'aidez-moi, mais j'ai lancé un projet, il est là, si vous pouvez le soutenir, c'est super. J'adore les mecs qui payent en like en disant ouais, bravo, super, je t'ai mis un pouce bleu. Bah non, on va acheter le produit, connard. Ça, c'est la meilleure façon de soutenir le projet. Donc, ils peuvent te payer en argent pour soutenir ton projet, en devenant client, en t'achetant un produit, en souscrivant à ton service, etc. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon que ton réseau a de te payer, c'est en te donnant du temps et du temps qui a de la valeur. C'est-à-dire, en passant du temps avec toi et te dire qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Sur quoi t'es bloqué ? Attends, je te mets en relation avec un tel, ça va te débloquer. Attends, je te donne cette idée. Attends, je te donne cet outil. Attends, je te connecte à telle personne ou je te présente un client. Et ça, ça dure. C'est très durable. La facilité, c'est de t'acheter un produit tout de suite pour te soutenir. Alors, l'ultra facilité, c'est de te mettre un like. Bon, ça, c'est autant te dire que c'est pas du soutien. La facilité de soutien, c'est de t'acheter un produit ou un service immédiatement et point, juste par principe. Le véritable engagement, c'est de s'asseoir, de te donner du temps, des idées et t'aider à avancer dans ton projet. Si tu peux faire 2 et 3, c'est le top. Là, ouais. Tu peux commencer à parler d'un ami.
La rêve grand public avec l'émission qui veut être mon associé, ils parlent souvent de ça. Ils te disent, bah là, ton produit, il est déjà tellement bien installé, t'as déjà tellement de chiffre d'affaires et autres que je t'apporte 100 000 balles ou pas pour rentrer dans ta boîte, à la fin, on s'en fout, ta boîte, elle marche déjà. Par contre, je pense que soit je suis légitime, soit je suis pas légitime pour t'apporter de mon expérience, de mon réseau, pour que tes produits soient dans tous mes hôtels en Europe, etc. etc. C'est ça qui est intéressant. T'as vu, dès que je parle, Manuel, il dit point suivant, parce qu'il trouve que je parle trop.
Bah, c'est surtout qu'il a fait 10 minutes sur le sujet, donc il a envie de passer à la
quel
question.
Quel connard.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
N'acceptez pas de faveurs, donnez-les. Il est préférable d'être redevable que de devoir.
Ah, ça c'est ma théorie sur les ascenseurs.
C'est-à-dire,
je dis souvent, il vaut mieux avoir veiller à ce que tous tes ascenseurs soient en l'air pour que tu puisses les rappeler quand tu veux. Et donc c'est exactement ça. Donne, rends service, machin, etc.
Elle est bien cette phrase.
Et quand t'as besoin, t'appuies sur le bouton et l'ascenseur redescend. Si t'as aidé les gens à monter. C'est pas beaucoup d'effort pour eux de te renvoyer l'ascenseur quand t'as besoin d'un service. Et c'est pas instrumentaliser tes relations, c'est juste un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est que si tu peux faire des trucs qui aident les gens, ben fais-le. Et après, regarde qui renvoie l'ascenseur.
Instrumentaliser les gens, ce serait leur donner l'illusion que tu vas les aider.
Exactement.
Pour toi, t'élever et jamais le faire.
Alors que, et ça, peu de gens le font, c'est dommage. Et je sais que Léo, il me reprend souvent et il m'engueule même. Moi, je pense que de facto, il faut aider les gens et regarder ce qu'ils font avec ça. Parce que c'est ça qui va être tout dire d'eux.
Ouais.
Et je pense pas qu'il faille les faire passer à travers des instruments de « pour l'instant, je t'écoute, quand tu mériteras, je te donnerai plus », machin, etc. Non. Moi, je m'assois, je t'écoute, si tu me dis un truc intéressant, je vais faire plein de trucs, je vais te donner des trucs qui ont énormément de valeur, je vais voir comment tu te comportes avec ça. Si tu te comportes bien, je continue à te parler. Si tu prends, mais que tu renvoies rien, je sais qui tu es. Et j'ai gagné énormément de temps.
Donc vous pouvez faire des demandes sur l'adresse de Manuel, voilà, si vous avez besoin d'aide pour un truc, projet, n'importe
Léo
quoi.
Léo@deuf.com.
Moi, je l'ai beaucoup fait en perso, et en pro, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est Manuel le premier qui me disait, mais arrête de vouloir tout contrôler quand on demande un contact, c'est pas à toi d'appeler, machin et tout. Donne tes contacts, donne tes trucs, etc. De toute façon, la vraie valeur, c'est si c'est toi qui, à la fin, appelle ce contact-là parce qu'il te connaît. Mais que tu donnes le contact de même la personne la plus importante sur Terre, si elle existe, à n'importe qui, on s'en fout, il répondra à personne en fait. Et la personne reviendra et te demandera encore un deuxième service et elle te devra peut-être 2 fois plus parce que c'est d'elle-même que ça partira, ou alors elle sera très contente que tu l'aies aidé, que tu lui aies donné ce contact.
Mais moi je suis très cool avec mon karma, je donne.
Ça c'est ouf, ouais, ça c'est vrai.
Voilà. Et je suis très à l'aise avec ça, ça me pose aucun problème. Et je sais que dans le lot, il y a plein de gens qui ne savent pas recevoir, qui vont complètement abuser de ce que tu auras donné, en profiter, ne rendront rien. Je le sais à l'avance, donc je peux pas être déçu. Ça fait partie du jeu. Par contre, j'accélère le processus pour détecter ceux qui rendent. Alors que si tu y vas vraiment petit à petit,
tu perds du temps,
etc. Tu perds un temps fou, en fait. Là, c'est une façon de détecter le comportement des gens. Donc voilà, donnez beaucoup. Vous serez généreux, plus vous détecterez vite qui vaut la peine.
Tu mets une carotte pour voir s'il bouffe la carotte.
Exactement. Si ça marche sur les ânes, ça peut marcher sur les gens.
D'ailleurs, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que c'est un truc qu'on n'ose pas trop faire. Et en fait, souvent, les gens sont plus sympas qu'on le pense.
Ouais.
Et ça peut te permettre de gagner un temps fou et peut-être même de te faire des potes. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous avez besoin.
Leo@duff.com.
Non, par contre, moi, je réponds pas.
Et arrêtez avec ce truc de je ne veux rien devoir à personne. Mmh. Je me dois tout à moi-même. Je demande pas d'aide et tout. On doit toujours, toute notre vie, quelque chose à quelqu'un. À commencer par ta mère, parce que
si elle avait pas poussé, tu serais pas là.
Voilà. Donc.
Poussé, madame.
Le prochain, les gars... Moi,
comment tu peux être capable de faire des super citations et celle-là? C'est incompatible.
Quoi? Bah, elle est très bien, cette Ça part de là. Hein.
Bon, prochain point. La plupart se ruinent pour paraître riche au lieu de vivre pauvrement pour devenir riche.
Ouais. Je pense que c'est juste deux mindsets différents.
Ouais, non, mais c'est l'histoire du... je crois que la question, elle est vite répondue. tu vois, c'est tout
On est surtout dans une génération qui est encore plus démonstrative qu'avant, quoi. J'ai l'impression.
C'est le paraître.
Ouais. Putain, paraître à tout prix. Plus difficile que ça, je trouve.
Ouais, les mecs, ils louent des Urus, ils racontent des histoires qui n'ont aucun rapport avec leur réalité.
Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, ces gens.
Ah non, mais le problème, c'est la communauté qui les suit sérieusement.
C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'ils arrivent à s'auto-persuader que c'est vrai.
Oui, peut-être, mais je sais pas. Moi, j'ai tendance à me dire que les gens qui s'achètent des belles fringues, etc., bah, c'est simplement leur personnalité, c'est leur mode de vie. Et tu leur dis demain, mais tu sais, ce serait plus smart de vivre un peu pauvrement pour être riche plus tard. Je pense qu'ils s'en foutent. Ils ont pas envie de ça. C'est juste deux mindsets différents.
La question, c'est pas tellement l'histoire de fringues. Moi, je comprends que t'as des problèmes de fringues, Léo, mais.
C'est vrai en plus.
Moi, ce qui me pose plus problème, c'est le sticker sur la portière, 49 euros par heure.
Oui, non, mais d'accord, tu prends un extrême.
Tu vois. Mais moi, je pense que ce que veut dire cette phrase, c'est que quand tu es trop dépendant du sentiment qu'ont les autres en te regardant, en réalité, tu ne t'appartiens plus. Je discutais avec un de mes potes qui est un des managers d'une marque de haute joaillerie qui s'appelle Van Cleef & Arpels. Et je ne sais pas s'il écoute le podcast, mais je pense à Johan. Et il me racontait une histoire. Il me disait, voilà, un jour, on a un client, Place Vendôme, qui vient en jogging dégueulasse. Enfin, un jogging pourri, quoi. Des baskets de footing, un peu en sueur, machin, etc. Et qui vient et qui rentre dans la boutique. La boutique Place Vendôme, tu vois, c'est la place de la haute joaillerie à Paris, etc. Il demande à regarder les bijoux, etc. Là, t'as tous les vendeurs qui s'écartent du client au moment où il rentre dans la boutique.
Parce qu'il pue.
Et il y a une seule vendeuse qui s'approche de lui, qui lui dit « Monsieur, comment je peux vous aider ?» etc. Et il regarde les différents bijoux, machin, etc. Il dit « Merci, à bientôt. » Et puis le lendemain...
On dirait que tu nous fais une Oussama Hamar, c'est parfait.
Le même mec... Non, c'est,
la... c'est vrai en plus,
non,
je sais.
La différence, c'est que l'anecdote est vraie. le lendemain, le mec vient en costard, hyper classe, costard, cravate, trois pièces, hyper bien habillé, etc. Là, t'as tous les vendeurs qui s'approchent en disant « Monsieur, comment je peux vous aider ?» etc. Il dit « Fermez votre gueule, bande de cons, je veux parler à cette demoiselle. » Parce que c'est la seule qui a voulu me parler hier. Et il est parti avec une pièce à 3 millions d'euros.
Ah ouais.
Et le mec était au Ritz, juste en face.
Parfait.
Sur la place.
Donc
ce qu'il faut lui, il s'est affranchi du regard des autres. Il en a rien à foutre de paraître riche.
Il en joue même, pour que les autres se sentent compte.
Ce qu'il veut, c'est l'être. C'est avoir la liberté. Et l'anecdote, c'est je veux acheter cette pièce parce que je vais demander ma femme en mariage. Je loge au Ritz juste en face. Et voilà la pièce que je veux pour faire ma demande en mariage. L'histoire ne dit pas s'il a divorcé ou pas.
Ou s'il a acheté la même pour une autre.
Ça, c'est plus à Monaco.
Ouais, c'est plus à Monaco.
C'est plus dans tes coutumes.
Il faut faire gaffe en tant que vendeur. Voilà, c'est un tips. Voilà. Faut pas dire ah elle allait bien à madame en pensant que c'est la même.
Là j'ai plein d'anecdotes là-dessus mais qui sont pas trop racontées.
Romain il a vécu la même anecdote mais il en a acheté 4 au cas où.
Il est con.
Il y avait une promo.
Allez, prochain. Effet de levier, expertise, temps. Choisissez-en un. C'est tout ce dont vous avez besoin pour gagner de l'argent. Soit de l'effet de levier, soit de l'expertise, soit du temps. Pas besoin de se concentrer sur tous à la fois. En synthèse, concentrez-vous sur un objectif et faites-le bien.
Moi, j'ai rien à dire là-dessus.
Non, ok, prochain point. Vos premiers 100 000 dollars arrivent plus vite si vous possédez avant d'investir.
100 000 dollars.
Vos premiers 100 000 dollars arrivent plus vite si vous possédez déjà...
99 999 dollars.
Voilà.
Je n'ai pas trop compris celui-là.
C'est quoi ? Vas-y, redis.
vos premiers 100 000 euros arrivent plus vite si vous possédez avant d'investir. En gros, ne pense pas à investir trop vite, trop petit. Conserve, continue d'avancer, continue de faire évoluer ton produit. Et quand tu seras plus gros et que tu pourras prendre des risques...
En gros, il te dit investis avec de l'argent qui ne te met pas à risque sur ce que tu possèdes déjà, en fait. Donc, investis avec de l'argent qui ne t'est pas indispensable.
La croissance, c'est l'amplification des petites choses.
C'est vrai, 1% chaque jour.
Moi, je déteste les gens qui me disent « Ah, mais pour faire ça, j'ai besoin de ça. Ah, mais pour faire ça, j'ai besoin de ça. Ah, mais là, je dois attendre d'avoir ça parce que ça, c'est pas sûr. » Je fais « Putain, ferme ta gueule, avance, quoi. » Pars du principe que tout est OK, mais avance, fais le truc et tu verras bien.
Toujours penser petit.
Bah, en tout cas, découper tes tâches. Si t'as un gros truc où tu dis « Oh là là, ça va être compliqué », encore une fois, découpe tes trucs en plein de petits trucs que tu peux faire tous les jours pour que ton truc avance.
Donc, tu penses petit.
Oui, c'est vrai. Mais c'est les détails qui comptent.
Moi, je dirais pas que c'est penser petit, c'est penser grand. Mais faire des petits pas tous les jours.
Oui.
Mais il y a un truc, c'est tu fais 90%, je ne sais plus ce que c'était la situation, mais tu fais 90% en un mois et les 10 derniers pourcents en 10 ans. Quoi. Tu vois le truc, voilà.
C'est la stratégie des petits pas. Un petit pas chaque jour, ça vaut mieux qu'un grand pas tous les 10 ans.
Donner de la valeur gratuite sans aucune attente et vous...
Donner de la... quoi l'orthophoniste
C'est très bien, merci. On embrasse...
Petit, je crois.
On embrasse le meilleur sniper de France. Je cherche son prénom.
Pierre Palmade.
Putain,
c'est un sacré sniper.
C'est un long sniper qui va jusqu'au nez en tout cas.
Tu cherches
Laurent Baffy.
Laurent Baffy, merci. Donner de la valeur. J'ai rigolé tout seul à ta vanne 10 minutes après. Donner de la valeur gratuite sans aucune attente et vous obtiendrez des retours 10 fois plus grands plus tard. C'est ce que tu disais
c'est
au tout
ce
début.
Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, merci.
Votre produit doit répondre à la demande et non tenter de la créer. Ça, j'étais pas trop d'accord. Il y a tellement de produits qui ont créé une demande.
Ex nihilo, non, c'est rare. Non, c'est assez rare.
Mais par exemple, quand le premier iPhone est arrivé avec l'écran tactile, les gens n'avaient même pas idée de ce qu'était un écran tactile.
Oui, mais t'es déjà dans le how. Alors que la réalité, dans le fond, c'est que tout le monde savait que les smartphones, c'était relou dans leur ergonomie. Mais tout le monde s'en contentait. Mais personne n'osait imaginer qu'on pouvait faire différemment.
Okay.
La demande existait, ils ont juste créé la solution. Mais tu peux avoir une demande qui est inconsciente.
C'est ce que j'appelle la demande latente.
C'est le cas la plupart du temps d'ailleurs.
Et ça, c'est le top. Quand tu arrives avec un produit qui répond à une demande latente, qui est encore peu verbalisée,
mais si tu fais pas,
laquelle...
si t'es pas quechua,
pas mal. Sur laquelle tu poses des mots, tu décortiques le problème et tu expliques que ton produit le résout. C'est la keynote de Steve au moment de l'iPhone. Il montre des smartphones de la catégorie. Il dit, on va se débarrasser des claviers en plastique horrible, dégueulasse. On va enlever les stylets, etc. En fait, il passe une grande majorité de la keynote à montrer des produits existants et à expliquer quel est le problème. En réalité, il adresse la demande latente que personne n'a osé ou su verbaliser jusqu'à présent. Donc, dans votre marché, cherchez quelle est la demande latente qui existe, mais qui est un peu comme ça, vaporeuse, que les gens ne savent pas verbaliser. Et si tu arrives avec une solution face à ça, c'est carton plein.
Dernier point, la technologie va manger les entreprises ennuyeuses, acceptez-le.
Bah, tous les bullshit jobs.
Ouf.
Oui.
Bah, c'est vrai, c'est les premiers qui vont disparaître.
Il y en a plein qui ne l'acceptent pas. Je te donne l'exemple aujourd'hui
ceux
même.
Ceux qui font des bullshit
encore,
jobs ne l'acceptent pas.
Je te donne vraiment exemple du jour. Je parle avec un conseiller de banque et qui me dit « Oh là là, mais ne me parlez pas de Bitcoin, c'est le mot interdit en banque, etc. » Je dis « Ah bon, pourtant, ça ne vous dérangeait pas d'avoir mes relevés de compte Bitcoin quand il fallait ouvrir votre KYC chez vous. Vous étiez bien content de savoir que j'avais quand même de l'argent en crypto-monnaie et tout ça. Ah oui, oui, mais bon, le Bitcoin, on ne veut pas en entendre parler. » J'étais en mode « C'est catastrophique d'être aussi réfractaire à une technologie qui, au contraire, pourrait t'aider. » Parce que c'est le premier système qui pourrait automatiser plein de choses grâce à la blockchain, grâce aux crypto-monnaies, etc. Bref, c'est un autre débat, mais c'est complètement ça, quoi. J'hallucine aujourd'hui avec les canaux de diffusion qui sont aussi puissants que TikTok, qu'Instagram, etc., que les gens sont encore réfractaires aux technologies qui les entourent et qui se persuadent que non, mon métier, il existera encore pendant des années, j'ai pas besoin d'évoluer.
Il suffit de voir comment les gens réagissent à l'IA. Ils réfléchissent pas à propos de l'IA. Ils disent juste à partir du moment où ils sentent qu'eux, ils n'ont pas tellement envie d'évoluer en ce sens. Et qui sont déjà très bien dans leur métier, ils trouvent ça cool de pas bouger, de pas se projeter à est-ce que dans 10 ans je devrais trouver un autre travail ou devoir évoluer pour pas me faire dépasser par l'intelligence artificielle. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'ils vont devoir progresser et qu'ils peuvent pas rester dans leur confort. Donc ça les inquiète.
Voilà.
C'est valable pour plein de choses.
J'espère que vous pourrez maintenant peut-être gagner plus d'argent.
En tout cas, il y a des bons conseils dans la liste.
Ouais.
Merci les gars.
La bise.
Bye.
We'll be right back.